Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Alors, en plus, vous êtes filmé, bravo, on vient de filmer la danse.
Oh, non.
Avec cette caméra-là.
Oh, c'est embarrassant.
Bravo. Non. Enfin, quelqu'un qui est naturel. Voilà.
C'est votre
enfin,
jingle. Enfin, votre jingle, il est...
Entraînant. Enfin, quelqu'un qui casse les codes. Bravo. Je suis ravi. Voilà. Vous êtes magnifique. Tina Payet, bonjour.
Bonjour, Sylvain.
Présidente monde de la RICS.
C'est vrai.
Bravo. Voilà. C'est pas rien. La Royal Institution des Chartered Surveyors. On va en parler dans quelques instants. Merci, Tina, d'être avec nous. Mon rêve se réalise. Voilà. Franco Borca, bonjour.
Bonjour.
Passe-président.
Passe-président du Conseil France, qui maintenant... position occupée par mon ami Fabrice Léger, et j'ai l'honneur d'avoir intégré le board mondial de la RICS en charge des sujets développement durable et environnement.
Mais dis-moi, mon cher Franck, tu parles combien de langues exactement ?
Trois et parfois quatre sous la torture.
Pas mal quand même, hein ? Pas mal. Ma chère Tina, vous êtes une professionnelle de l'immobilier ?
Oui.
Quel est votre métier d'abord ?
Bon, mon métier, j'ai fait quasiment tous les métiers de l'immobilier, tout secteur d'assets confondu. Mais je dirais que je me définis comme un investisseur, promoteur, asset manager. Voilà,
pas
ce
mal.
Sont les métiers principaux sur lesquels j'ai pu œuvrer. Ouais.
L'engagement au sein de la RICS, pourquoi vous l'avez fait ? Quel a été votre cheminement ?
Alors là, c'est une très longue histoire, mais je vais essayer de faire court. En fait, j'ai fait une formation accréditée RICS à l'ESSEC et j'ai commencé à travailler. Je n'avais pas l'intention de me mettre, de qualifier auprès de la RICS, mais j'ai commencé à travailler en développement de l'Amérique du Sud et Europe de l'Est en même temps. Et j'avais un grand portefeuille à faire valoriser, à gérer. Et je commençais à chercher dans ces deux régions du monde des gens de confiance et qui savaient comment faire des valorisations et comment gérer des actifs d'une méthodologie digne de ce nom. Et j'ai commencé à utiliser le cahier des membres de la RICS pour pouvoir trouver des gens de confiance dans ces pays. Et après un certain moment, je me suis dit quand même que c'était un peu difficile de dire que j'utilisais ça comme mesure de confiance alors que je n'y étais pas moi-même. Et donc, j'ai décidé de me qualifier. Voilà.
C'est comme ça que ça a démarré.
C'est comme ça que ça a démarré.
Est-ce que vous auriez imaginé, si je vous avais posé la question, que vous alliez devenir présidente monde ?
Aucunement.
Incroyable.
Aucunement. Non, absolument pas.
Je trouve ça génial. Justement, Franck, si on devait aujourd'hui décrire l'action de la RICS, comment on pourrait la résumer ? Alors, on dit toujours Royal Institution et Chartered Surveyors, ou on garde vraiment l'acronyme RICS ?
On peut le dire RICS ou RICS, ça dépend des pays où on se situe. Pour résumer, l'action de la RICS, c'est d'abord... une déontologie, des standards partagés et des pratiques partagées avec les membres à travers le monde. On est 135 000 à travers le monde, 89 000 au Royaume-Uni, c'est ça, hein, si ma mémoire est bonne.
Dans 142 pays.
Et l'action principale que l'on mène, c'est de diffuser ces standards pour les membres, de travailler avec les membres pour répondre à leurs besoins dans leur pays et partager les bonnes pratiques au niveau mondial. Et notamment des sujets qui nous intéressent beaucoup avec l'IVSC, qui est International Valuation Standard Council, et des coalitions qui regroupent des dizaines d'organisations comme ICMS ou IPMS, qui regroupent plus de 50 organisations mondiales, de travailler sur les standards sur la mesure, les mètres carrés, IPMS, sur les quantités et les coûts, ICMS, et la durée de vie, l'analyse du carbone, avec le Life Cycle Assessment qui a été développé et qui va devenir obligatoire en mise en œuvre pour les membres de la RICS dans quelques mois.
Quand on voit l'amplitude... Tu parlais du nombre de personnes adhérentes à la RICS à Londres, par exemple, en Angleterre. Quand on voit le chiffre en France, finalement, ça reste assez peu. Pourquoi la France n'a pas une représentation plus grande? Est-ce que ça prend moins, finalement, dans l'état d'esprit, j'allais dire plutôt latin, et ça a mieux pris, finalement, dans les pays anglo-saxons?
Je dirais quand même qu'une chose que Franck n'a pas dit, parce qu'il fallait quand même qu'il me laisse quelque chose, c'est que l'organisation, ah, c'est bien, l'organisation a 155 ans. Donc,
ah oui, sont... ah oui,
oui, oui. Donc, en fait, l'histoire de l'organisation est éminemment britannique à la base. Et c'est pour ça que, historiquement, il y a eu énormément de membres. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on choisit un métier dans ce secteur et on se qualifie, mais directement en sortant de l'école, de sa formation de base. C'est quelque chose en Europe qui est très différent. En Europe, on a beaucoup plus ce qu'on appelle les senior professionals. C'est des personnes qui ont déjà bourlingué, qui ont eu une carrière et qui ont décidé là de se qualifier parce que c'est vu vraiment comme une différenciation et un gage de qualité.
Alors, et d'ailleurs,
Est-ce que ça veut dire qu'aux États-Unis, en Angleterre par exemple, c'est un prérequis? C'est-à-dire que si vous êtes par X, vous ne bossez pas dans l'immobilier?
Je n'irai pas aussi loin que ça, mais c'en est très proche.
C'est-à-dire
si on veut travailler dans les grands cabinets de transactions et de conseils, type C.B. Richard Ellis, Knight Frank, etc., et bien là, quasiment tout le staff va vers une qualification. Il y a des programmes même en interne où ils font la formation, ils ont leurs propres écoles en interne pour préparer les examens de la qualification RICS. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Hein. C'est 2 ans après ces études, 2-3 ans pour préparer ces examens et les présenter.
Combien de pays, rassemblent la RICS aujourd'hui
dans 142.
Oui.
142. Oui.
Donc ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire, j'exagère peut-être un peu, mais dire que la RICS a défini un standard mondial?
Oui.
Qui permet en fait de faire ce qu'on appelle de l'interopérabilité. C'est possible?
Oui, alors, c'est tout à fait possible et c'est le cas sur les secteurs bien précis. On n'est pas partout, on ne peut pas tout faire, mais quand Franck parlait tout à l'heure de IPMS, ICMS, ce sont des coalitions avec une cinquantaine d'organisations professionnelles à travers le monde. Ils se sont mis d'accord sur un standard pour mesurer, par exemple, les mètres carrés. Bon, ça a l'air bête comme ça, ça peut être des pieds carrés, mais...
Ça n'est pas quand on va aux États-Unis, quand on va au Canada, on ne s'y retrouve plus. Hein.
Oui, alors, en fait...
Le système de mesure.
Non, même en Europe, je vais expliquer d'où je veux en venir. Même en Europe, par exemple, en Espagne, on a le droit, dans les mètres carrés vendus, de compter, par exemple, un piscine ou un parking qui soit distant de moins de X kilomètres du bâtiment qu'on est en train de mettre en vente. À New York, on a le droit, dans les copropriétés, les très belles copropriétés en face de Central Park avec des gargouilles, les façades,
ouais,
etc.,
ouais.
On mesure les mètres carrés jusqu'aux pointes de la gargouille. Oui. Donc, dans certains pays, on peut inclure les mètres carrés.
Les surfaces communes sont incluses.
Oui. Et on peut inclure également dans certains pays les étages supplémentaires qui pourraient être supportés par les fondations.
Les espaces virtuels, oui.
Oui. Donc, on a fait une étude et du plus au moins, il y a jusqu'à 24% de différence de mètres carrés pour un même bâtiment selon les codes de mesure des différents pays. Donc, ce n'est pas une question de mètres carrés, de pieds carrés.
Je prends un exemple. En France, on parle de surface habitable et pas de surface de plancher, par exemple.
Oui.
Eh bien, il y a des pays aujourd'hui où le prix au mètre carré pour l'appartement, par exemple, ils prennent en compte la surface de plancher, c'est-à-dire que les parties communes. En France, c'est pas possible, parce que le droit ne s'y prête pas. Est-ce que ça veut dire qu'on tend, Tina, vers une unité de mesure?
Oui, on entend vers une unité de mesure qui est très importante.
Qui est partagée.
Parce qu'imaginons que cette unité de mesure, aujourd'hui, il est à la base de tous les actifs qui sont comptabilisés dans une société. Donc, imaginons un corporate qui a sur son bilan X immeubles de X mètres carrés, etc. Chaque immeuble, en fait, est valorisé en fonction, en partie, en grande partie, en fonction du nombre de mètres carrés qui sont loués à des tiers, à un loyer. Donc, on connaît le loyer. Le loyer, normalement, un loyer de marché, il est par mètre carré, OK? Ou par pied carré, l'unité, peu importe. Et c'est là où on va créer la valorisation de cet actif qui lui-même va s'asseoir sous les actifs d'une société. Et on peut imaginer que tout ça est peut-être basé sur quelque chose qui serait 24% de plus ou de moins selon le pays dans lequel on a mesuré.
C'est considérable.
Et d'ailleurs, c'est extrêmement important. L'objectif n'est pas de créer un standard unique. L'objectif est de laisser chaque pays avoir ses deux, trois définitions locales, mais d'avoir un standard global qui permet de traduire chaque mesure locale dans un standard global partagé, notamment pour les investisseurs internationaux ou multinationaux.
Dernière question. Comment vous voyez l'année 2024, vous, qui avez une vue globale,
oui,
avec quand même un échantillon de plusieurs dizaines de pays? Je vais la faire courte, ce n'est pas de la méthode Coué, mais on voit poindre une petite lueur au bout du tunnel d'un marché chahuté. Est-ce que pour vous, l'année 2024 sera l'année du rebond ou du changement?
Alors pour moi, l'année 2024 est l'année du changement par excellence, mais peut-être pas dans le sens dont vous l'entendez, Sylvain. Dans le sens que la semaine dernière à Paris, 70 gouvernements représentants de 70 pays ont signé un accord qui s'appelle l'accord de Chaillot. Et cet accord de Chaillot les engage à rendre leurs immeubles, leurs bâtiments, proches de zéro en carbone, résilientes au climat. Ils s'engagent également à se mettre en place à la fois les politiques publiques et les regulations, les réglementations nécessaires pour pouvoir venir à bout de ces contraintes et également de mettre en place un plan de financement. Si on prend ça plus, en prenant plutôt le cadre européen de tout ça, donc déjà on a 70 pays, on a la plupart d'Afrique, on a toute l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, les États-Unis, le Mexique. On a quasiment toute l'Europe. On a également, c'est très étonnant, on a également les Émirats, le Moyen-Orient.
Mais pourquoi? Je comprends.
C'est étonnant parce qu'il y a énormément de construction qui va se faire là-bas. Énormément. Beaucoup plus. Nous, on est sur rénovation, surtout. Hein. Là, dans leur pays, ils sont en train de construire le monde. L'Afrique et le Moyen-Orient, ce sont des régions du monde où on va construire énormément. Ils se sont mis la contrainte de construire carbon zéro et résilient au climat. C'est énorme. Donc ça veut dire que cette année, j'espère cette année,
de l'imitation,
on va avoir une année où les réglementations vont venir en force et les pratiques vont devoir changer pour pouvoir mener à bien une autre façon de construire le monde.
Donc finalement, tout bouleversement est tout à fait propice au changement. Une petite citation pour vous, Tina, qui vous va bien. C'est Victor Hugo qui l'a dite. Et elle s'y prête à vous. Elle dit la chose suivante. Je préfère le futur au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours.
Ah, c'est très beau ça.
Merci beaucoup Tina Payet. Je rappelle que vous êtes la présidente monde de la Royal Institution des Chartered Surveyors. Un grand merci également à Franck Oborka, passe-président de France, mais membre du board international de la RICS. Bravo.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
On est toujours sur Radio Immo. On enchaîne avec notre prochaine table ronde avec nos amis de Nexity qui seront là dans quelques instants.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis sur Radio Immo.